Bonjour à tous. Prions encore. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ce matin, Seigneur, nous attendons de toi que tu injectes ces paroles dans nos cœurs, Seigneur, dans nos pensées. Que ton esprit soit puissant au milieu de nous et que chacun entende ce que tu as préparé pour lui. Merci de nous fortifier tous, de nous garder éveillés en toi et que rien d'autre ne puisse troubler nos pensées que ta présence. Amen. Nous parlons pendant plusieurs dimanches, prochainement encore, de la vie de disciple, le discipulat. Et donc, j'ai un texte que j'ai accepté dans Matthieu 28, les versets 16 à 20, mais qui a déjà été traité récemment par Alexandre, et vous pouvez réécouter son message, la grande mission, le grand mandat, donc c'est sur podcast, et donc j'essaye d'aller dans une autre direction avec ce texte, donc vous entendez le texte, il est très connu pour beaucoup. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » J'ai intitulé ce message « Disciples en marche ». Alors, juste pour être clair, « disciple », ça veut dire la même chose que « chrétien ». Dans Actes, à un certain moment, je crois, dans Actes 13, il est dit que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc on ne va pas dissocier, il y a des chrétiens et il y a d'autres qui sont plus, qui sont des disciples. Chacun qui se dit chrétien est disciple de Jésus. Notre texte commence, « Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. » Les événements de la Pâque les avaient marqués, ébranlés tous. Leur sommeil à Gethsémané, alors que Jésus attendait d'eux qu'ils veillent, leur fuite, leur peur, la crucifixion, leur incrédulité face à la résurrection, sans Jésus, pour eux, c'est l'effondrement. Alors il y a ce rendez-vous, dans Matthieu 28, 10, où un ange dit aux femmes, « Allez dire à mes disciples de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jésus fixe un rendez-vous. Dire à mes frères, il ne les a pas rejetés, n'est-ce pas? Ce sont ses frères. Leur équipe n'est plus au complet. Judas a trahi, il s'est suicidé. Que leur reste-t-il de cette aventure merveilleuse avec le Maître? 3 années où ils étaient vraiment dans la présence de Jésus. Et là, ils sont presque largués. Bon, il leur a donné ce rendez-vous. Et ils y vont malgré leur état. Et le Maître les précède. Je les précéderai. C'est dans la parole. Qu'ils me suivent. Les disciples, le disciple suit son Maître. En allemand, on dit « nachfolgen ». Textuellement, c'est « suivre derrière » ou « marcher derrière le maître ». Il n'essaye pas de le précéder. Vous vous souvenez de l'appel des disciples? Au début des évangiles, Jésus dit « toi, suis-moi ». Suivre, être derrière lui, mais ne pas se laisser distancer aussi. C'est important. Le disciple, c'est un élève. En allemand, on dit « Jünger », donc c'est un peu le jeune qui suit derrière. Un apprenti. Il faut accepter ce statut, n'est-ce pas ? Quand on va vers Jésus, on est des apprentis. Et l'apprenti cherche la présence du maître, parce que le maître d'apprentissage, il a des choses à transmettre. C'est lui qui sait. Bon, aujourd'hui, avec l'autorité, on a un peu de problème à accepter qu'il y ait des personnes qui savent. Pour beaucoup de jeunes, quand on veut leur expliquer quelque chose, ils disent tout de suite « oui, oui, je sais ». Mais quand on creuse, ils ne savent pas grand-chose. Et nous sommes tous dans l'attitude et nous sommes invités à être des apprentis. Il veut apprendre le maximum de lui pour être équipé pour son travail. Parce que ce n'est pas juste pour acquérir de l'intelligence intellectuelle. Il veut pouvoir transposer ce qu'il apprend dans sa vie courante. Il se discipline. Ouh là là, quel gros mot. Il se discipline volontairement pour passer le maximum de temps dans la proximité de celui qu'il considère comme capable de faire de lui un serviteur utile. Donc, c'est de l'autodiscipline. Nous n'avons pas à discipliner les autres. Et se discipliner, ce n'est vraiment pas dans l'air du temps aujourd'hui. Dès qu'il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire, on bloque. Ah non, pas d'accord. Moi, d'abord. Et chacun de nous a ses luttes à ce sujet. Les parents sont appelés à enseigner la discipline à leurs enfants pour leur permettre d'affronter les situations inattendues de la vie. Un enfant qui n'a jamais eu de discipline, ben, il a plus de peine à pouvoir progresser. S'il accepte la discipline que les parents lui enseignent, ben, quand il y a des aléas de la vie, il sait mieux s'en sortir. Il aura été équipé. Se discipliner, c'est résister à certaines envies. Ne pas suivre ses envies. Pour les 11 disciples, c'était faire plusieurs jours de marche pour aller en Galilée. La Galilée, c'est au-delà de Horeb, de la montagne, donc de Jérusalem. Je n'ai pas calculé, mais il y a une certaine distance. Donc, ils ont une promesse, il les attend là-bas. Donc, on se met en route. Et ils n'étaient pas moralement au meilleur de leur forme, mais le maître les attendait. L'espoir de le rencontrer, de voir un avenir et de l'espérance leur a permis de triompher d'eux-mêmes. Certainement, il a encore quelque chose de prêt pour nous. Il y a encore un avenir et de l'espérance, parce que pour eux, humainement, sans Jésus, que voulez-vous qu'ils fassent ? L'élève est volontaire. Il a soif d'entendre les sagesses du maître. Là, j'y vais. Et j'aurais bien aimé savoir de quoi ils discutaient en chemin. Parce qu'on sait que quand ils étaient en route, il y avait toujours des discussions. Et avant, quand ça discutait, on soumettait les questions à Jésus quand on était en chemin. Et là, ils sont en chemin sans lui. Donc qui va prendre l'autorité ? Mais avant, chaque fois qu'il y avait quelque chose, soit il leur demandait « Et là, vous parliez de quoi ?» Ou alors il disait « Maître, dis-nous, là on est en discussion. Comment tu vois ça ?» Parce qu'il voulait savoir, il savait qu'il avait la sagesse. Quand il le voit, il se prosterne et l'adore, dit le texte. Là, ils sont allés à la rencontre de Jésus. Ils se prosternent. La place du disciple est vraiment dans la présence de son maître et surtout à ses pieds. L'image de Marie, la sœur de Marthe, elle s'est installée au pied de Jésus. Là, elle se sentait bien. Là, Jésus pouvait parler à son cœur. Il attend tout du maître, le disciple qui est à ses pieds. C'est l'endroit où son cœur est en paix, en confiance, même si sa vue est chahutée. On a parlé de Pierre tout à l'heure, quand il était vraiment chahuté dans les flots. Mais dès que Jésus a tendu la main, dans sa présence, Pierre était rassuré. Il ne me laissera pas couler. son cœur est en paix, en confiance, et aussi dans un quotidien souvent hostile. Et le quotidien pour beaucoup est hostile aujourd'hui. Les onze se souviennent de la tempête apaisée, je l'ai écrit, avant que je sache que Karine en parlerait. Donc, cette tempête qui leur a fait tellement peur, « Maître, réveille-toi ». Le maître dit un mot, et le calme est revenu. Et là, il l'adore, et tout à coup, il a dit, « Quelques-uns eurent des doutes. » Quand même. Pourquoi cette petite tache au milieu de ce tableau de retrouvailles? Mais pourquoi donc? C'est que les faiblesses des disciples ne sont pas occultées. Karine aussi, tout à l'heure, elle a beaucoup parlé des doutes, de nos doutes. Et ce n'est pas la peine de les cacher, de faire comme si on était des surcroyants, des supercroyants. Et même pour la foi, le disciple est entièrement dépendant de son Seigneur. Même croire, c'est pas évident. Dans Marc 9, 23-24, Jésus dit à un homme dont le fils est possédé, « Tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il a confessé qu'il croyait, mais ça cogitait derrière dans son cœur. Ben, je doute quand même. Hein. Cet enfant était possédé, était maltraité depuis longtemps, et tout à coup, Jésus dit « c'est possible ». C'est pas évident. Aussitôt, oui, le Père dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Confesser ses doutes, c'est montrer sa vulnérabilité et demander du secours. Montrer ses doutes, c'est aussi dire « j'ai besoin de toi ». Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le maître est fidèle. Et Paul a écrit aux Philippiens, Philippiens 1, au verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Chacun de nous a commencé à marcher avec le Seigneur. Le Seigneur a commencé une bonne œuvre, et souvent quand nous sommes un peu au creux de la vague ou quand l'eau passe au-dessus, nous avons ces doutes, mais Paul est persuadé que celui qui a commencé, c'est lui qui tient la main. C'est sur lui que nous pouvons nous appuyer. Je reprends toujours cette image de la miséricorde, de la corde qui nous tire. Elle est tenue fermement par le Seigneur. Elle n'est pas juste quelque part dans le vague parce que nous, on se l'imagine. Tout au long de nos vies, nous sommes appelés à chercher la présence et l'aide de Christ. Et une caractéristique de la vie de disciple, c'est l'humilité. Être humble, reconnaître que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons appris des choses, nous sommes formés pour des choses, mais sans lui, il n'y a pas de fruits parce que nous sommes trop faibles. Pour ses décisions, le disciple consulte le maître. Il expose ses projets, ses soucis, à celui qu'il croit capable de diriger la vie. On ne devient pas croyant et puis on dit « maintenant j'y vais et je sais faire ». Chaque fois qu'il y a une décision à prendre, importante ou petite, posez la question au maître « qu'est-ce que t'en penses ? Dirige mes pas ?» Ça change la vie. Et ce maître, il est aussi capable de l'aider dans les difficultés, de le guérir aussi. Certains ont de grandes blessures dans leur vie, et le maître est capable, mais il faut le consulter, lui dire, écoute, tu vois mon état. Et Jésus s'approche d'eux. Il l'adore, il y a des doutes, Jésus s'approche d'eux. Eux vont au rendez-vous fixé par lui et lui, il les rejoint. Jacques 4, verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Nous devons nous approcher de lui. Il nous attend. Pierre a essayé, en sortant de la barque, d'aller vers Jésus. Ah, c'était du fond du cœur qu'il voulait vraiment aller près de lui. Quelle promesse. Passer du temps dans la présence de Dieu, seul pour mon culte personnel ou en assemblée, c'est découvrir son amour. C'est impératif. Passer du temps avec le Seigneur. Découvrir sa fidélité, la grandeur de son pardon aussi. Quand vous voyez les cas qu'il a traités quand il était sur terre, Jésus. Femme adultère, Zachée, le péager qui trichait, et bien d'autres, la Samaritaine. Et il leur a fait, les disciples ont découvert son amour, son pardon. La grandeur de son pardon, illimité. Mais il faut se présenter à lui. Dans Jean 8, 31 à 33, il est dit, Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Alors, demeurez dans la parole, je ne vois pas 36 solutions. Il faut la lire, il faut l'étudier. Ce n'est pas juste comme ça parce que c'est vrai, il est dit, la parole, c'est Jésus. Mais il faut quand même savoir de quoi parle sa parole. Et donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Le disciple consulte la parole. C'est la parole inspirée qui le transforme, qui l'affermit. Au fur et à mesure qu'on découvre des choses sur Dieu, c'est un miroir pour nous, on se découvre aussi et on voit notre besoin de lui, notre besoin de sa grâce. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je continue avec ce texte. Jésus proclame sa toute-puissance, sa victoire sur les ténèbres. Là, il peut le dire après la résurrection. Après son baptême, au début de son ministère, le tentateur avait la liberté de l'éprouver et de lui proposer tous les royaumes de la terre et leur gloire. Il avait autorité là-dessus. Satan pouvait proposer à Jésus, « Si tu fléchis le genou devant moi, je te donne tout ça. » Par la mort et la résurrection de Jésus, Satan a dû lui céder les âmes de tous ceux qui croiraient en son nom. Oh, Satan, il a encore des pouvoirs sur terre. Et on voit tout ce qui se passe parmi les nations, ces puissances des ténèbres, ou ces puissances aériennes qui veulent diriger le monde vers la catastrophe. Elles sont encore là. Mais les âmes de ceux qui croient en Jésus sont arrachées à Satan. Il n'a plus le droit de les tuer, les âmes. Ayez plutôt peur de celui qui peut détruire votre âme et rester à l'écart. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer votre corps, votre vie. Luc 10, le verset 17 à 20, il est dit « Les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. L'essentiel, c'est là. C'est là le fondement de notre foi. Nos noms sont écrits dans le livre de la vie. Disciples et Église, votre fondement en Christ et votre assurance éternelle ne reposent pas sur votre degré de spiritualité, sur vos œuvres. Christ nous a rachetés par son sang et nous a permis de naître de nouveau. Et il faut passer par là. C'est lui qui a inscrit votre nom dans le livre de la vie et nous chantons aussi qu'il l'a gravé dans ses mains. Il se souvient de nous comme les prêtres de l'Ancien Testament qui avaient les tribus d'Israël sur leur front, qui portaient cela. Et Jésus, il porte beaucoup de gravures dans ses mains, tous ceux qu'il a rachetés. C'est parce que nous sommes sauvés que nous sommes appelés à le servir auprès de nos contemporains. Ce n'est pas pour lui faire plaisir, ce n'est pas pour acquérir autre chose. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Et là, la tâche est rude. Par où commencer ? Faites de toutes les nations des disciples. Un bon témoignage dans Jean 13, le verset 35, ça a été cité tout à l'heure, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Si l'Église vit l'amour de Dieu, le monde extérieur voit, ici, Dieu est à l'œuvre. Ces gens appartiennent à un autre monde. Et c'est une invitation. Et nous avons l'exemple de Jésus lavant les pieds, il l'a fait physiquement, à ses disciples. Et récemment, on en a parlé en réunion de prière, Simon a été le premier, « Ah non Seigneur, pas moi, tu ne vas pas me laver les pieds. » Et Jésus lui a dit, « Si je ne te lave pas, tu n'as pas de part. » Il fallait vraiment passer par là. Parce que, en même temps, Jésus a dit, « J'ai prié pour toi. » Et Pierre a dit, « Moi, j'y arriverai. Pratiquement, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de tes prières, Seigneur. Je suis fort. Hein. » Bon, le résultat ne s'est pas fait trop attendre. Le deuxième témoignage, c'est annoncer la bonne nouvelle qui nous est arrivée, que nous sommes passés de la mort à la vie. C'est ça notre message. Ce n'est pas « on s'est amélioré, on a trouvé quelque chose de pas mal ». Nous sommes passés de la mort à la vie. Acte 4, 20, il est dit « nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu ». Cela doit déborder. Nous ne pouvons pas ne pas en parler. Nous sommes poussés à ça. On voulait interdire aux disciples, à Pierre et à Jean, de parler, de confesser Jésus. Impossible. Et il est dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dans Matthieu 12, les versets 34b, la moitié du verset, la deuxième moitié. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Soyons remplis de la présence de Dieu pour pouvoir déborder sur les autres. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Quand il a donné cet ordre de mission, ce n'était pas que les 11, tous ceux qui suivraient sont appelés au même ministère. C'est pour ça que j'ai dit, on est tous des disciples, comme équivalence que nous sommes tous des chrétiens, si nous sommes passés par la nouvelle naissance. Demandons au Maître une vision, le regard de Jésus pour nos contemporains, tous ceux qui vivent à côté de nous. Demandons-lui comment lui y voit ces pauvres âmes autour de nous qui marchent dans le brouillard, qui se cassent la figure. Demandons-lui d'avoir ce regard pour eux. Matthieu 9, 36, ils sont comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ne les attirons pas à nous, mais attirons-les à Jésus, qu'ils trouvent le bon berger. Nous le connaissons, le bon berger. Faisons-le découvrir à ceux que nous côtoyons. Ayons simplement un peu de semence en poche pour la répandre au fil de nos journées et de nos rencontres. Nous voyons pas mal de monde dans notre quotidien, mais ayons au moins la bonne semence que le Seigneur nous a confiée. Simplement, Il ne faut pas se mettre la pression, mais avoir une parole que le Seigneur nous a donnée, qui est adaptée aux personnes, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nos craintes, nos fatigues, nos raisonnements ne doivent pas nous empêcher de répondre à l'ordre du Seigneur. Et vous savez, la semence, pour la régénérer, il faut la mettre en terre. Une semence, par exemple le blé, après 5-6 ans, en atmosphère normale, il germe de moins en moins. Et donc, souvent, c'est les nouvelles graines, les nouveaux plants qui produisent le plus, parce qu'ils sont le plus féconds. Alors, n'attendons pas, ne gardons pas nos semences en poche, elles peuvent s'avarier. Mettons-les en terre, dans la bonne terre que le Seigneur a prévue, dans les cœurs de nos contemporains. À Simon, il a dit, en Luc 4, au verset 5, « Jette ton filet. » Ah. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Ah, constat. « Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Le résultat appartient au maître. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne veut pas nous entendre le message, que nous devons abandonner ailleurs. Il a dit « Jette ton filet ». Pierre a obéi. Plus tard, encore une fois, ils ont jeté le filet après la résurrection de Jésus. 153 gros poissons. Inimaginable. Le bateau, la barque, étaient en train de sombrer tellement ils étaient chargés. On aimerait bien que nos églises soient bien chargées, n'est-ce pas, de poissons que nous aurons pris avec le filet du Seigneur. Sommes-nous conscients que nous sommes des instruments dont le maître a le droit de disposer? Quand le semeur arrête son job, il n'y a plus de moisson. Et parfois, nous nous étonnons qu'il y ait si peu de moissons. Le contexte n'est pas favorable. J'ai une fois parlé là-dessus. Quand le semeur, en automne, il sème, parfois, il jette presque dans l'eau. Et d'autres fois, c'est des modes comme ça. Il met sa semence et au printemps, il y a quelque chose. Il y a une récolte qui commence à monter. Notre génération se replie sur son bien-être. Les croyants aussi. On a notre petit confort, on soigne notre image devant le Seigneur. Et le moindre effort, c'est aujourd'hui un peu la tradition. Je ne dis pas pour l'Église, mais en général. L'Église fait attention à l'assoupissement. Quand nous sommes stimulés, quand nous avons notre tâche, nous pouvons semer et nous avons la joie et nos forces sont renouvelées. Tiens-toi encore sur la brèche entre toi et ton prochain. Jésus ne s'est pas retiré, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la dernière heure. Jésus a dit « Je suis avec vous tous les jours ». Il n'y a pas de créneau où Jésus n'est pas présent. Et même si les obscurités progressent, il sera là. Il est fidèle. Ce n'est pas parce que la tempête est encore plus rude qu'il n'aurait pas secouru ou pas été capable de secourir les disciples. Il est le Tout-Puissant. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Rappelez-vous. Dans 2 Pierre 3, au verset 9, il est dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne se perde, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Alors le message de la repentance, ce n'est pas « Viens à Jésus, tout est beau hein ». La repentance, c'est aussi démontrer le péché. On n'a pas besoin d'insister, mais là où est le Dieu Saint, le pécheur, il constate qu'il est impur, qu'il a besoin de grâce. Que cette incitation, cette marche de disciples soit inspirante pour chacun d'entre nous. Amen. Père, toi tu connais chacun d'entre nous et tu sais quelles sont nos pensées, quelles sont nos priorités et nous te demandons que ta parole soit puissante dans chacun de nos cœurs, que ton esprit, Seigneur, bouleverse aussi nos vies là où elles ne sont pas là pour toi, afin que nous soyons des disciples, des chrétiens qui t'honorent, Seigneur, et qui veulent suivre, Seigneur, tes directives pour nos contemporains. Seigneur, tu es le bon berger et tu veux que ton troupeau grandisse parce que tu aimes tous les pécheurs. Étends ta main sur chacun d'entre nous, donne-nous aussi la sagesse, Seigneur, de voir quelles semences de ta part nous pouvons mettre en poche pour la distribuer dans notre quotidien, simplement. Nous savons que tu marches avec nous et que nous avons besoin de ces rendez-vous avec toi tous les jours pour apprendre encore à mieux te connaître. Amen.